Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions une courte lecture dans l'évangile de Jean et qui va nous situer dans notre réflexion ce matin. Alors, évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 à 37. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. C'est Jésus qui s'exprime. Et il dit en substance, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voilà pour notre situation de lecture. J'aimerais simplement dire quelques mots, c'est que Jésus se présente comme celui qui ne laisse pas l'homme, le croyant, dans la faim ou dans la soif, c'est-à-dire dans l'indigence ou la disette. Et il rappellera à ses disciples du moment qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu à l'œuvre, ils l'ont vu et entendu à travers ses paroles. Et il leur reprochera, ou tout simplement à tous ceux qui, ont été des douteurs ou des incrédules, il dira, mais malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit et tout ce que je suis, vous ne me croyez pas. Donc, souligner l'incrédulité, et il rappellera cette parole qui va nous donner maintenant le corps de notre méditation, il dira, mais tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Nous sommes des dons de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné à Jésus-Christ. Il nous a rendu capables de croire que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il est celui qui pardonne nos péchés, à nous de le croire, que nous sommes pardonnés nos péchés. Et il insiste sur une chose, c'est que tous ceux qui s'approchent de lui ne les mettra pas dehors. C'est-à-dire que c'est la liberté complète du choix, du libre arbitre des hommes. Mais une chose dont nous devons être assurés ce matin, c'est que si nous frappons à la porte, eh bien nous ne serons pas refoulés ou rejetés. Alors, ceci dit, nous allons donner, si vous voulez, une suite, mais ce sera un message un peu différent de ce que nous avons vu il y a 15 jours, où il était question des âmes encombrées. Notre vie peut être chargée par toutes sortes de fardeaux, de poids, de soucis, d'inquiétudes, et nous pouvons être chrétiens et avoir des âmes surchargées ou encombrées. Et tout cet encombrement pourrait constituer peut-être comme des parasites à la vie spirituelle, en quelque sorte une sorte d'engorgement où finalement nous sommes à saturation et qui neutralise notre foi, notre dynamisme, notre joie, notre paix, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Et si vous me permettez un bref rappel, j'aimerais simplement faire un survol, mais rapide, de ce que nous avons vu justement de l'encombrement de nos âmes, de l'encombrement des âmes des chrétiens, à travers quelques façons de vivre, façons de penser, façons d'être. D'abord, j'avais stigmatisé le perfectionnisme, c'est-à-dire que nous voulons, nous concevons notre vie spirituelle que dans la perfection. J'avais signalé que nous sommes sur terre et nous ne sommes pas encore au ciel. D'autres, peut-être, sont encombrés par une sorte de rêve que l'on pourrait appeler l'idéalisme. C'est-à-dire que, voilà, on ne voit pas le mal, on voit tout est bien, et puis, mais le monde est fait avec du gris. Il y a du noir, il y a du blanc, et on s'aperçoit que tout n'est pas l'idéal dans notre vie. Nous avions également stigmatisé des comportements chrétiens dans cette intolérance ou l'insupport aux réalités du mal. Certains ne supportent pas le mal. Et on a raison peut-être de ne pas supporter le mal. Mais le mal, c'est pas nous qui allons l'arracher. Jésus le recommande dans cette parabole de Matthieu, il dira, mais il y a l'ivraie et le bon grain. Et quand on veut enlever l'ivraie, on arrache le bon grain en même temps. Alors, que faisons-nous? Il y avait également un autre comportement humain qui était l'insupport de la faiblesse. Notre faiblesse que nous ne supportons pas, au regard de ceux qui sont plus forts que nous, ou la souffrance ou la faiblesse des autres, en disant « ben c'est quand même pas normal qu'ils n'y arrivent pas, ce sont des incapables, ce sont des faibles », alors on les méprise naturellement. Il y a aussi un autre aspect, c'est le découragement ou la démoralisation devant l'échec, où on baisse les bras en disant « ben c'est pas pour moi, c'est trop difficile pour moi ». Alors que nous avions signalé que Dieu nous dit « tout est possible à celui qui croit ». Alors on le croit ou on le croit pas, naturellement. Et puis il peut y avoir aussi une mauvaise image de soi-même. Je suis un raté. Je n'ai rien réussi. Je ne sais rien faire. Et c'est peut-être justement ces gens-là que dont Dieu se sert. Hein. Ou alors, son contraire, le narcissisme. Je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis... Voilà. Hein. C'est soit la sous-estimation ou la surestimation. Et puis il y a parfois aussi dans des comportements humains qui sont autant de qui encombrent nos âmes, eh bien c'est la perte du contrôle. C'est-à-dire que nous voulons tout maîtriser, nous voulons tout régenter et que finalement eh bien le monde ne peut pas se passer de nous hein, en raison de ce que nous pensons et des réactions qui sont devant par exemple la colère à travers les violences, à travers la violence, notre violence, nos ressentiments, notre entêtement, notre orgueil et notre obstination à vouloir toujours avoir raison. Ce sont des choses qui encombrent nos âmes. Ce sont des choses qui paralysent, ce sont des parasitages finalement de notre vie spirituelle, de notre vie de foi. Alors, on va passer en revue très rapidement, mais ça va être bref également, trois aspects des choses. On l'avait déjà entrevu la dernière fois, l'identification, c'est-à-dire se reconnaître soi-même. Et je vous avais dit que Jacques, l'apôtre, avait écrit un message sur le miroir, quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Voilà, on l'avait vu la dernière fois. Donc, se connaître soi-même, c'est l'identification. Ensuite, nous verrons brièvement ce qu'est le renouvellement dans la vie de l'esprit. Et cela commence toujours par un soupir ou une aspiration à changer de vie. Fatigué, lassé de ce que nous sommes, et de demander à Dieu qu'il nous donne sa grâce pour que véritablement, petit à petit, au cours de nos années, eh bien, nous changions, à l'intérieur naturellement, dans notre cœur. Il y a ce que je pourrais appeler un troisième point que l'on appellerait la transfiguration. Transfiguration, c'est voir, c'est penser, c'est vivre autrement. Parce que là, il y a eu une œuvre qui s'est passée. Un chrétien, il n'est plus du tout le même lorsque avant sa conversion. C'est un être qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui est né à une nouvelle dimension. Et puis nous terminerons, ce sera la conclusion, l'expérience personnelle d'une rencontre avec Dieu, d'une découverte de Dieu, d'une redécouverte de Dieu pour les chrétiens. Et j'ai fait appel à Job. Job, vie perdue, vie retrouvée et un nouveau départ. Alors on va voir ça très rapidement. On va d'abord parler de la configuration de notre être, ce que nous sommes nous en tant qu'hommes, c'est l'identification, se reconnaître soi-même, et c'est comme si je me regardais dans un miroir et je sais qui je suis, à l'extérieur naturellement. Et je m'aperçois que je peux avoir des défauts, je peux être mal coiffé, je peux avoir toutes sortes de signes qui sont un peu désordre. Alors à ce moment-là, si je me considère un petit peu moi-même, je remets les choses en ordre. Le meilleur est là pour me le dire. Alors, c'est le miroir physique, mais c'est le miroir aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous allons prendre, par exemple, et très rapidement également, on arrivera à la fin de l'année, parce que je suis en train de vous dire qu'on va faire très rapide, mais il nous reste encore 365 jours, hein, alors prenez votre temps. Hein. Donc, dans 1 Thessaloniciens, il est donné cette parole que j'aimerais justement, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et au verset 23, il est dit ceci, écoutez bien. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. » C'est pas vous qui allez le faire, c'est lui qui le fera. Les choses sont dites qu'il vous sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, ça, c'est se connaître dans notre dimension d'homme, de ce que nous sommes en tant que créature, tout simplement. Il y a, vous avez remarqué, trois composantes de notre humanité. Il y a le corps, il y a l'âme, cachée, invisible, et il y a l'esprit, à valeur égale. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien que quelque part on doit décoller, on doit être désétéré. C'est l'esprit, ça. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut juguler notre âme en disant, voilà, maintenant on ne vit plus. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien non plus qu'on ne doit pas entretenir notre corps. Ça va dans un sens positif comme ça va dans un sens négatif. Donc à valeur égale. Il y a le matériel ou la matérialisation de ce que nous sommes, c'est le corps. Il y a la personnalité, c'est l'âme. Et puis il y a la vie spirituelle, c'est une unité créationnelle. C'est-à-dire que Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes composés de cette manière et en vue de quelque chose. L'impératif qui ressort de tout cela, c'est tout simplement conditionner, si je peux m'exprimer ainsi, notre équilibre. Un chrétien n'est pas un farfelu. Un chrétien n'est pas un électron libre. Un chrétien est un homme qui doit ressembler à l'image de Jésus, c'est-à-dire l'équilibre. Équilibre, c'est le maître mot, et qui va naturellement favoriser notre propre processus de croissance. Si nous voulons grandir, eh bien il faut que les trois marchent ensemble, le corps, l'âme et l'esprit, et non pas à partir dans une direction au déficit des deux autres. Trop d'intérêt sur le corps et l'âme, eh bien, entraîne une vie matérialiste. C'est-à-dire, c'est le chrétien charnel. Il ne vit que pour boire, manger, et puis, voilà, c'est pas défendu. Mais, avec tous les excès et toutes les extrêmes que cela peut avoir, naturellement. Ça peut arriver. On en trouve dans l'histoire de la Bible des hommes qui ont mis l'accent, des chrétiens, des croyants plutôt, qui ont mis l'accent uniquement sur cette dimension du corps. Voilà. Et puis, si nous allons finalement, eh bien, dans un autre sens, alors à ce moment-là, nous allons tomber dans une autre dimension, parce que lorsque nous mettons tout et que nous voyons que l'aspect spirituel, permettez-moi de le rappeler ce matin, cela entraîne dans l'illusion, le mysticisme et l'ascétisme. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le vieil homme, matériel, celui dont nous avons parlé, l'ego, le moi, etc. Puis d'un autre côté, on décolle. Mais il ne faut pas oublier qu'on est encore sur Terre et que nous avons un crédit à faire valoir. Le crédit d'une vie équilibrée, d'une vie qui doit normalement être là, eh bien, le témoignage que nous avons à rendre à Jésus. D'ailleurs, il nous le rappelle, vous êtes le sel et vous êtes la lumière du monde. Hein. Le sel, c'est ce qui donne soif, qui doit assoiffer les âmes. Et puis la lumière, c'est ce qui éclaire dans les ténèbres. Hein. Alors, l'équilibre du chrétien, c'est adopter, permettez-moi le terme, c'est peut-être un peu mécanique, mais le différentiel. C'est adopter le différentiel qui rend compte de l'imperfection du monde dans un sens, qui nous met en face de nos limitations en raison de notre nature d'homme, et d'un autre côté, les perfections de Dieu. Comment fait-on avec tout ça? Et pourtant, nous sommes ainsi. Et pourtant, nous devons prendre les considérations, parce que, à défaut, finalement, eh bien, d'aller dans un sens ou dans un autre, par défaut, nous pouvons devenir, et ça c'est un très mauvais témoignage chrétien, des névrotiques, excusez-moi, névrotiques, on le voit dans les sectes, on le voit dans tous ceux qui partent là avec des dérives bizarroïdes, doctrinales, et ça c'est pas normal. Jésus était l'équilibre parfait. Le corps, c'était son humanité, il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, s'est réjoui, etc. D'accord? L'humanité de Jésus. Jésus aussi s'est manifesté à travers une âme qui était d'une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parfait. Saint. Et puis, il y avait cette relation qu'il pouvait avoir le Père. Ça, c'est ce que nous pouvons appeler, eh bien, en ce qui nous concerne, cette création tripartite en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est la configuration, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'identification de ce que nous sommes. Il faut bien nous connaître. Beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui incrédules savent bien qu'ils ont un corps. Ça, Il n'y a aucun sens, aucun doute à avoir. Hein? Quant à une âme, ils l'exploitent comme ils peuvent, avec les dons ou les talents qu'ils ont, dans le bien et dans le mal. Ça, c'est sûr. Mais si vous posez la question, est-ce que vous avez un esprit? Alors là, c'est le grand inconnu. Hein? C'est pour ça que Jésus dira à un moment donné, dans cette rencontre avec Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Que tu naisses de l'Esprit de Dieu. Autrement, le corps est mort. L'âme va aller à la dérive dans tous les sens, mais sans espérance et sans espoir, naturellement. Donc on a bien compris qu'il y avait cette première phase importante. J'espère que je ne suis pas trop compliqué, je ne veux pas faire de la théologie ce matin, mais c'est pour donner une réponse quand même, et donner un petit peu tous ces paramètres, pour expliquer un petit peu plus. Moi j'ai eu à cœur d'expliquer un petit peu plus, finalement, le message premier, les âmes encombrées. Pourquoi les chrétiens, quelquefois, sont malheureux? Pourquoi ils sont tristes? Pourquoi ils n'arrivent pas à louer le Seigneur? Pourquoi ils ne sont pas dynamisants, qui ne sont pas attrayants pour les autres? Pas les autres chrétiens, mais aussi auprès du monde. Parce que leur âme est encombrée, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité. Le plan que Dieu a fait en les créant un corps, une âme et un esprit, naturellement. Identification de ce que nous sommes. Lorsque nous avons acquis ce principe, déjà on commence à avancer un petit peu. Et on peut peut-être commencer à faire un petit peu de balayage dans notre âme pour qu'elle cesse d'être encombrée par toutes sortes de conceptions, toutes sortes d'illusions. Maintenant, j'en viendrai à une comparaison pertinente. Notre esprit, nous pourrions le comparer à un ruisseau, par exemple. Un ruisseau, s'il rencontre un barrage, d'une manière ou d'une autre, fait par l'homme ou naturellement, il va y avoir un encombrement, il va déborder, et cela va empêcher son cours régulier d'aller finalement là où le lit qui a été traché pour lui, dans la trajectoire qui est la sienne. Et s'il y a un obstacle, s'il y a un encombrement dans son âme, par exemple, qui va avoir naturellement, impacté sur son esprit et son corps, parce que ça peut le mettre aussi dans une sorte de difficulté, il va prendre une autre direction, c'est-à-dire qu'il va sortir de son lit. Il va sortir de sa trajectoire et puis il va envahir tout le reste. Mais il ne sera plus, finalement, dans le tracé qui évolue. Et parfois, que ce soit pour le ruisseau, que ce soit pour notre esprit, pour notre vie spirituelle, il nous faut une mise à jour. Je veux parler un petit peu informatique, là, vous savez. Vous les recevez directement et puis, les choses remettent un petit peu. Et cette mise à jour, va permettre de déblayer un petit peu et puis de nous mettre finalement à niveau. Hein. Et notre engorgement, puisque nous parlons de nous-mêmes, nous conduit soit le corps et l'âme, quand il y en a trop, à une crise de foi. Faut peut-être pas dire ça maintenant, là, parce que, il y a eu trop de surcharge, vous comprenez? On sort d'une période où, on n'a pas jeûné, ça c'est sûr. Donc ça peut conduire à une crise de foi, F-O-I-E, ou alors quand c'est l'esprit qui est malade, à une crise de foi, F-O-I. Ça va? Je vous fais une ordonnance si vous la sortez, hein. Merci docteur, c'est bien, c'est gentil. Alors, quand il y a cet engorgement, quand il y a ce défaut de mise à jour et que ça s'en va un peu dans tous les sens, on va voir la deuxième partie qui est le renouvellement de notre vie. On a vu l'identification, qui suis-je, avec ces trois catégories, corps, âme, esprit. On va voir le renouvellement et je vous invite à ouvrir votre Bible maintenant dans Romains, chapitre 12. C'est un peu ce que je voulais vous dire la dernière fois, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Chapitre 12, et on va voir, à travers trois versets que vous connaissez bien, parce qu'on a l'habitude de les évoquer, c'est Paul, l'apôtre, qui écrit aux chrétiens de Rome, et qui leur dit ceci, chapitre 12, verset 1er. Il leur dira, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, » c'est-à-dire, c'est pas la crainte, c'est pas la peur, c'est pas le châtiment, mais l'amour de Dieu. Compassion, l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, au monde, à la mode, enfin à tout ce que vous voulez. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, nous apprenons une chose. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, que vous ayez une notion juste, pas des illusions, pas une fausse conception religieuse. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je pense que ça vient en complémentarité de ce que nous avons dit précédemment. Offrir nos vies en sacrifice, c'est-à-dire c'est nous donner. C'est pas un sacrifice sanglant, hein, mais un sacrifice vivant. Le sacrifice sanglant donne la mort. Le sacrifice vivant, c'est de rester vivant, mais de vivre vers une nouvelle et d'aller et d'aspirer vers une nouvelle dimension. Et il nous est dit que cela est agréable à Dieu, que cela plaît à Dieu, que cela, eh bien, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas de décrocher les montagnes, ce n'est pas ce mysticisme ou cet ascétisme qui nous fait gravir jusqu'au ciel comme s'il y avait des efforts à faire puisque nous sommes sauvés par la foi. On n'est pas sauvés par le mérite, on est sauvés par la foi. Et qui sera de notre part un culte raisonnable. La raison, qu'est-ce que c'est? Un culte normal. Un culte qui sera spirituel, mais qui ne sera pas transcendant, qui ne sera pas au-delà des limites humaines, c'est-à-dire d'être ce que nous devons être, tout simplement, parce que quelquefois, en voulant faire l'ange, connaissez le proverbe, on fait la bête. Pas la peine d'aller plus loin, naturellement. Alors ne vous conformez pas, faites attention, parce que vous vivez dans un monde qui est un monde, un environnement qui est mauvais, on le sait. Mais tant qu'on le sache et que Jésus a prié pour nous, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, il faut rester là. Il faut rester dans ce monde. Il faut vivre avec le monde d'une manière sociale, familiale, conjugale. Il faut assumer toutes nos responsabilités d'hommes, de chrétiens dans ce monde en tant que citoyens. C'est pas la peine de le fuir. Il y en a qui se sont mis depuis des siècles et des siècles. Enfin, ils ne sont pas restés des siècles, mais le monisme, c'est-à-dire se renfermer tout simplement entre quatre murs et de vivre sa vie à l'extérieur en se garantissant de tout le reste de l'extérieur. Bah, le problème de l'extérieur, s'ils ont fui pour ne plus voir, ils l'avaient emmené en eux et la même société s'est refaite entre quatre murs, hein, ça revient au même, hein, monastère et autres. Hein. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Voilà, ça peut être intéressant de prendre en considération. C'est le principe du renouvellement chez les enfants de Dieu, on n'est pas statique. On n'est pas là assis parce qu'on vient tous les dimanches dans un culte et puis là on attend que le Seigneur revienne et où il nous prenne. Non, c'est la vie. Renouvellement. Je voudrais faire un petit rappel. C'est qu'à la base, vous en souviendrez, à la base du salut, il y a le sacrifice de Jésus. D'accord? Si nous sommes sauvés, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. C'est lui. Donc, à la base du salut, il y a le sacrifice de Christ. Et à la base de la vie spirituelle ou de la vie de la foi, il y a le sacrifice de moi-même. Lui s'est donné, moi je dois me donner pour lui. Dans un culte raisonnable. Pas la peine de faire autre chose que ce qui nous est demandé. Le sacrifice de moi-même et le sacrifice de mon ego. C'est-à-dire ce que la Bible et ce que Paul appelle le vieil homme. Et quand Jésus dira, dans les évangiles synoptiques, hein, il dira cette parole, « Si quelqu'un veut être mon disciple, et si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et que maintenant, eh bien, ils me suivent tout simplement. » Voilà. À la base, il y a la notion de sacrifice. Sacrifice, c'est la notion du don. La notion du don, non pas par devoir, par crainte ou par peur, mais une notion qui nous parle de l'amour. Quand Jésus s'est donné pour nous, c'est parce qu'il nous aime. Il nous a aimés. Et si nous nous donnons à Christ, c'est non pas parce que nous avons peur et nous voulons tout simplement lui complaire, je ne sais avec quelle motivation, mais nous devons nous donner parce que nous l'aimons. C'est plus la loi, c'est plus l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament où là rayonne finalement la foi dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Et si je le fais, je ne le fais pas par devoir ou par crainte, mais je le fais parce que j'aime. Et ça change toute la vie, ça. Ça, c'est clair. Hein. C'est-à-dire nous laisser réformer. Ou alors, si nous prenons le même raisonnement reformaté. Voilà. Reformaté, c'est transformé par le Saint-Esprit. C'est pas transformé par une religion, par une prétendue doctrine, même si elle est biblique. Non, c'est le Saint-Esprit qui va venir en nous et qui, lui, va prendre son temps, va véritablement, tout au long de notre vie chrétienne, enlever les aspects. Il va nous désencombrer. Il va, comment dit-on en informatique, il y a un mot que je ne retrouve pas. Je vieillis, hein, c'est pour ça. Exactement, merci, c'est formidable. Défragmenter, parce que ça fait de la place après, hein, vous comprenez? Ça s'appelle la régénération et la sanctification. Regardez, ou écoutez, renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence. L'intelligence, c'est la capacité que Dieu nous a donnée, eh bien, de la réflexion, du calcul, du choix, hein, et de pouvoir finalement, eh bien là, composer quelque chose, mais qui nous rapproche de cette intelligence de Dieu. Personnellement, moi, je me sens pas trop intelligent, franchement. Mais une chose, c'est que je demande, et je le demande tous les jours, dans la conduite qui est la mienne de conduire les églises, donne-moi, non pas de stimuler mon intelligence, mais donne-moi de ton intelligence, donne-moi une intelligence spirituelle. Comprendre comme tu comprends, aimer comme tu aimes, dire comme toi tu voudrais que je dise. Ouais. Renouvellement de l'intelligence. Et nous avons à ce titre encore un autre texte, dans 2 Corinthiens, je vais simplement le restituer, 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4, il est donné simplement cette pensée. Alors, que je retrouve 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, tout simple. Et c'est ce que nous avions déjà entrevu la première fois. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire le corps, l'âme, etc., nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Ah. L'Esprit de Dieu est capable de renverser des forteresses de notre entendement, de notre intelligence humaine, parce que finalement, eh bien, tout ça constitue des encombrements. Le ruisseau qui s'encombre et qui va déborder, qui va aller de n'importe où, qui va sortir de son lit. C'est quelque chose qui nous parle également, eh bien, de combat et de lutte, ces forteresses. Et c'est pour ça que quand nous n'avons pas forcément compris la vision et la conduite de Dieu, beaucoup de frères et de sœurs de chrétiens sont pas heureux d'être chrétiens. Ils sont toujours en train de se poser mille et une questions. Est-ce que le Seigneur ceci? Est-ce que le Seigneur cela? Est-ce que je suis dans sa volonté? Mais on s'embourbe, hein. Alors que l'on soit nouveau converti, c'est normal. Que l'on vienne de se faire baptiser, il faudra apprendre. Mais quand on a des années de conversion, qu'on en est encore là, waouh, il y a un problème, hein. Pour renverser les forteresses, tout ce qui encombre mon âme, mon cœur, mes sentiments, mon affect. Je peux pas être heureux avec tout ça, il y en a trop. Parce que mon ancienne vie n'a pas été encore tout à fait liquidée, excusez-moi, nettoyée. Et Paul dira, nous renversons les raisonnements humains, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour nous amener à une pensée captive en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand la captivité, c'est pas un emprisonnement, c'est au contraire, c'est la liberté. Nous allons passer d'un état à un autre. Et c'est vrai que quelquefois, nous pouvons diagnostiquer chez des frères et des sœurs que nous aimons beaucoup. Et l'on voit, ils rament. Rien à voir avec le ramadan, hein. Ils rament. Vous vous souvenez? Oui. Oui, on s'en souviendra, hein. D'accord. Hein. Mais ils rament. Et on se dit, mais ils ont du mal! Mais pourquoi? Parce que le Seigneur les attire vers l'avant et ils ne veulent pas lasser le reste. Ils sont en train de s'encombrer, c'est un véritable déménagement. Seigneur, je veux aller vers toi, mais j'emmène tout le reste. Il y a des casseroles, hein? Et ça fait du bruit, les casseroles. Hein. Alors ils sont toujours entre les deux. Je suis heureux, je suis pas heureux, je pourrais faire quelque chose. Et ils neutralisent peut-être même la vocation que Dieu leur a donnée. Parce qu'ils ne peuvent pas, finalement, avoir cette liberté. Écoutez, Paul le dira aux Philippiens, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce que nous comprenons? C'est pas pour la captivité. Un chrétien, ça doit être un homme heureux. Vous l'avez déjà entendu, hein? On doit être épanoui, on doit être heureux. Autrement, c'est pas la peine d'être chrétien. Pas la peine. Puisque Jésus nous dit qu'il veut que nous soyons heureux. Je veux que mes brebis soient dans l'abondance. Elles rentreront, elles sortiront. C'est quoi ça? C'est la liberté. Renouvellement de l'intelligence, renverser des forteresses, renverser des raisonnements qui sont souvent des raisonnements de notre ancienne vie, des raisonnements que nous avons acquis dans une éducation religieuse, avec des craintes, avec des peurs, avec de toutes sortes de superstitions même, hein, et qui s'élèvent contre. C'est la libération de notre esprit, de nos pensées, de notre conscience aussi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. En nous et par la foi. Et c'est parce que je crois que ça va bouger. Si je suis toujours en train d'osciller entre le doute, alors à ce moment-là, ça ne peut pas avancer. C'est des encombrements de l'âme. Après l'identification, après le renouvellement dont nous venons de parler, nous arrivons à une sorte de transfiguration. Vous connaissez l'histoire de la haute montagne où Jésus a été transfiguré, mais lui n'en avait pas besoin puisqu'il était saint. Alors nous allons regarder maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 16 et 17. Et je crois que c'est un beau passage. Ainsi, dès maintenant, nous dit Paul, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu. C'est bon? Ah oui. Les choses se progressent, hein. Je me suis converti à Jésus-Christ, j'avais 19 ans. Et ça fait déjà quelques années maintenant, hein. Je connaissais Jésus selon la chair. Parce que j'avais une éducation religieuse, collège religieux, etc., etc. Je le connaissais. Je connaissais le nom de Jésus, je connaissais l'histoire sainte, je connaissais les choses. Mais ça, c'était le connaître selon la chair. Religieusement parlant. Et quand, véritablement, le Seigneur m'a appelé, il a changé ma vie. Toute cette connaissance a disparu. Enfin, j'ai voulu la faire disparaître, enfin... Je ne voulais plus vivre comme ça parce que ça ne m'apportait rien, c'était stérile. Ma vie était inféconde à travers des rites, à travers des traditions, à travers toutes sortes de choses, encombrement de mon âme. Mais le jour où je suis né de nouveau, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, que j'ai demandé pardon de mes péchés, je me demande encore pardon. Mais une chose qui est certaine, c'est que je crois que je suis pardonné quand même, je tiens à vous le dire. Je suis pardonné, j'en ai l'assurance. Mais les choses ont changé. À ce moment-là, j'ai découvert, je connais Jésus, je peux le dire, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Sa parole m'a éclairé. Ça a été véritablement une lumière qui est venue dans ma vie. Et Paul l'exprime, lui, quand il était juif, israélite jusqu'au bout des ongles, parce qu'il fallait voir un peu le personnage, hein. Quand il est tombé sur le chemin de Damas, là, ses yeux se sont ouverts et il y a eu comme une transfiguration, une lumière dans nos âmes, dans son âme, dans la mienne. Et il pouvait dire, mais maintenant, nous le connaissons d'une autre manière, nous le connaissons d'une façon spirituelle. Alors si quelqu'un est en Christ et nous sommes en Christ, à moins qu'il y ait des amis qui soient là et qui ne connaissent pas encore cette dimension, mais nous les invitons à vous rapprocher de Jésus, hein. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je peux dire que les choses anciennes sont passées. Il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ pour moi, comme dans les livres d'histoire, vous comprenez? Et toutes choses sont devenues nouvelles. Eh oui. Puis changées, transformées, transfigurées. Et je sais que cela vient de Dieu. J'ai rien fait, sinon le désirer d'y aspirer, de le vouloir profondément. Tout simplement, et Dieu a fait son œuvre. C'est une découverte d'une nouvelle dimension, la découverte d'une nouvelle dimension de vie spirituelle. Connaître selon la chair et connaître selon l'Esprit de Dieu, qui opère en moi, qui opère en vous, qui opère en tous, à la condition que nous nous laissions faire. Et je vais m'expliquer. Que nous nous laissions faire, ça veut dire, et ça sera le titre du message, lâcher prise. On est résistant. Ouais. On est souvent opiniâtre. on tient mordicus sur des choses qui nous servent à rien. Et que nous avons besoin de passer dans une nouvelle dimension, nous connaître nous-mêmes, on l'a vu, le renouvellement, on en a parlé tout à l'heure, maintenant c'est une transfiguration, un changement, mais il faut lâcher prise. Et nous avons du tempérament, nous avons du caractère. Seigneur, je veux bien de tout de toi, mais c'est moi qui vais faire, pas toi, tu y touches pas. Hein. C'est pas vrai? Vous me répondez pas parce que... Mais vous avez raison, vous faites comme vous voulez. Hein. Le lâcher prise. Il y a des choses dans notre vie sur lesquelles nous sommes mordicus convaincus que finalement le Seigneur n'y touchera pas parce que nous voulons les garder. C'est notre patrimoine. Et pourtant, nous restons malheureux avec ces choses. Renfermés peut-être dans des conceptions, renfermés dans un légalisme, renfermés dans toutes sortes de choses où nous savons très bien pertinemment que l'Esprit nous dit « Mais lâche-toi, abandonne-toi, fais-moi confiance, tu vas rentrer, tu vas marcher sur les eaux. » Oui, mais les eaux, c'est toujours inconnu de marcher dessus, hein, parce que normalement, on n'est pas des batraciens, hein, on n'est pas des poissons non plus. Hein. Mais c'est véritablement faire le pas de la foi, nous transformer. C'est lâcher prise, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est se livrer, c'est cesser de contester, de s'opposer, ce n'est plus résister, ce n'est pas discuter, ce n'est pas s'agiter. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous m'avez déjà entendu le dire, non? Seigneur, prends tout, Seigneur, on le chante. Hein. Oui, prends tout, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Prends-moi dans ce que je crois pourtant être bon pour toi, mais je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas pour ton plaisir. Parce que finalement, eh bien, le Seigneur voudrait complètement nous transformer. On est souvent, en tant que chrétien, comme la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Mais le Seigneur veut tout vider pour nous remplir avec quelque chose de neuf. C'est le vieil habit. Et qui va être remplacé par le nouvel habit. C'est pas de moi qui l'invente, hein. C'est la phraseologie de l'apôtre Paul quand il écrit, hein, naturellement. Tout simplement, eh bien, le laisser agir, le lâcher prise. Je finis. La première étape, nous l'avons vue, c'est bien nous connaître nous-mêmes, corps, âme et esprit. Identification, nous l'avons vu dans Thessaloniciens. La deuxième étape, c'est le désir de changer. Parce qu'on se sent malheureux, on se dit, mais, bon, c'est bien, d'accord. Mais quelquefois, on a des choses à l'intérieur de nous-mêmes qui nous pèsent. On dit, oh, mais Seigneur, si véritablement je pouvais te débarrasser de ça. C'est le renouvellement, principe du renouvellement, dans Romains 12, on l'a vu. Troisième étape, c'est ce que nous venons de voir, c'est nous livrer à Dieu pour qu'il nous transfigure. On vient d'en dire deux mots. Quatrième étape, elle est intéressante parce qu'elle est pratique. C'est accepter l'expérience de l'épreuve du dépouillement. L'épreuve d'une nouvelle aventure avec Dieu, d'une aventure de foi. Parce que je ne sais pas où il me conduit. Je ne sais pas ce qu'il veut pour moi. Mais enfin, en tous les cas, si je ne sais pas ce qu'il veut pour moi, je sais une chose, c'est qu'il veut le meilleur. Pas le bien, mais le meilleur. C'est accepter l'expérience de l'épreuve. Et on pourrait peut-être retourner les choses. La vie, la véracité, l'authenticité de la vie d'un chrétien, c'est la preuve qui donnera, c'est la preuve que sera donnée dans l'épreuve. Est-ce que je tiens l'épreuve? Est-ce que j'irai jusqu'au bout dans l'épreuve? Est-ce que véritablement, eh bien, ça va donner des fruits? Parce que vous savez, et on en a parlé dernièrement, les épreuves qui sont permises par Dieu, c'est pas un châtiment, c'est pas une punition, laissons ça de côté, ça fait partie des encombrements. Non. Mais la volonté de Dieu, c'est que quand il permet des choses dans notre vie, à quelque niveau que ce soit et de quelque nature que ce soit, c'est pas, frère, écoutez bien, c'est pas pour nous détruire, c'est pour nous faire vivre une vie nouvelle. Quel que soit le chagrin, la souffrance, le renoncement, quel que soit ce qu'il nous a donné et qu'il nous reprend, mais c'est pas pour nous frustrer, c'est pas pour nous châtier, mais c'est pour véritablement nous faire avancer. Ne considérons jamais, au grand jamais, que Dieu est l'auteur du mal. C'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi, comme le premier au jardin d'Éden. Je traverse des épreuves, et pas pour autant. Seigneur, quand je prie, envoie-moi des épreuves parce que je suis heureux. Envoie-moi, s'il te plaît, même l'Himalaya qui me tombe sur la tête. Oui, oui, on peut toujours le considérer. Non, non, mais c'est pas ça, on n'est pas maso, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que au lieu de m'effondrer devant une épreuve, au lieu de ce qui peut être naturel, parce que ça, quelquefois, ça peut faire sortir des larmes et des chagrins et des pleurs, ça c'est sûr. Mais au lieu de m'enfermer en disant, ben, qu'est-ce qui m'arrive encore, et puis je m'en sortirai jamais, et puis il y a ceci et cela, je veux véritablement, et c'est le renouvellement de l'intelligence, je veux, Seigneur, que dans ces moments difficiles, tu changes le mal en bien. Romains, chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je suis conditionné, cadré et bloqué sur une vision négative, alors à ce moment-là, tout sera difficile. Ça sera terrible ma vie. Mais je dis, Seigneur, tu vois, si tu l'as permis, c'est qu'il y a des raisons. Si tu as permis que j'attende, si tu as permis qu'il y ait des contretemps dans ma vie et ceci et cela, j'espérais autre chose, mais voilà, les choses mauvaises arrivent. Eh bien, toi, tu es capable de changer, parce que vous savez, pendant ce temps-là, notre foi va grandir, nous allons combattre, nous allons lutter, nous allons demander à Dieu, nous allons supplier le Seigneur, et un jour, le miracle, l'exaucement va arriver, mais quelle joie, quel bonheur, parce que ça ne viendra pas de nous. Accepter l'expérience de l'épreuve, et nous avons justement, eh bien là, ce que Pierre nous dit, tout simplement à travers cette parole dans 1 Pierre chapitre 4, et au verset 12 et 13, Il dit ceci, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Vous savez ce que c'est que la fournaise? Hein? Barbecue, là. Hein? « Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Non, l'épreuve, elle n'est pas extraordinaire. L'épreuve, c'est le lot de tous les hommes à travers tous les temps. Et les chrétiens y compris. Il y a des gens qui se sont convertis avec un évangile à l'eau de rose. On leur a dit, quel mensonge! On leur a dit, vous savez, le jour où vous serez converti, vous ne serez plus malade, vous ne connaîtrez plus les difficultés, etc. Mais quel mensonge! S'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire, réjouissez-vous au contraire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Seigneur, bon, pour ça qu'on va lui demander des épreuves. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire de Jésus apparaîtra. Vous rendez compte? Des larmes à l'allégresse et à la joie. Miracle de Dieu. Et je termine sur le cas le plus mémorable qui soit dans l'histoire biblique, c'est Job. Ah, notre ami Job. Vous savez que le livre de Job est un livre très ancien qui a été écrit pour nous apprendre l'art de bien souffrir. C'est le titre, hein? Job, c'est l'art de bien souffrir. Alors, quant à souffrir, aussi bien souffrir bien. Et bon, enfin, dans le sens positif. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit au chapitre 42? Et là, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui est formidable, à mon sens, que vous allez comprendre également. Job, chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, dit Dieu. Hein? Oui, j'ai parlé, Job dit. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, dit Dieu à Job. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job termine, c'est pourquoi je me condamne et me repens dans la poussière et la cendre. Ah! Il y a quelque chose de formidable à travers l'histoire de Job. Vous savez qu'il a eu une vie vraiment comme un long fleuve tranquille, hein, Job, non? Enfin, que je le relise. Hein. Parce que les problèmes, il en a eu. Hein. Il a tout perdu dans sa vie. Vie perdue, après avoir eu tout au départ, tout perdre. Et il a tout retrouvé. Il a recommencé une vie nouvelle. Ah oui. On peut peut-être dire ça. Également, quand il dira, il va être confondu devant Dieu, Dieu va lui faire grâce, il va lui pardonner. Pardonner d'avoir été excessif dans ses paroles parce qu'il ne comprenait pas le sens de l'épreuve. Pourquoi Dieu m'envoie-t-il l'épreuve? Pourquoi Dieu fait-il ceci? Pourquoi Dieu me châtie-t-il? Parce qu'il n'avait pas compris. Il était encore sur un registre de justice. Il pensait qu'il était juste. Dieu va lui dire, écoute mon pauvre Job, t'es comme tous les hommes, t'es pas juste. Tu n'es pas juste. Mais si je viens te secourir, c'est pas à cause de ta justice. C'est à cause tout simplement de ce que je te fais grâce. L'amour avant la révélation du Nouveau Testament. Compassion de Dieu. Mon œil, dira-t-il, avait entendu parler de toi. Ouais. On a tous une instruction d'une manière ou d'une autre, que ce soit une instruction religieuse chrétienne ou non chrétienne, d'une divinité ou de la déité. Mais toujours est-il, il dira, mais mon œil avait entendu parler de toi. Mais après l'épreuve, après ce qu'il a connu, après le secours de Dieu, après la grâce que Dieu lui a faite, il a dit, mais maintenant mon œil, c'est une façon de penser, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a une nuance, mes frères et sœurs, entre ce que je sais de Dieu et l'expérience que j'ai fait de Dieu dans ma vie. Eh oui, l'expérience que j'ai fait, et ça c'est quand même autre chose. On l'a lu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles que soient les aspérités charnelles de notre personnalité et de nos âmes encombrées, je le dis bien, quel que soit, et ça c'est le cas de Job, quelles que soient les douleurs, si l'on pense à la santé, aux pertes, à la méchanceté d'autrui, au rejet des autres, aux humiliations et quelquefois nos états de dépression, permettons à Dieu et à son esprit d'enlever en nous les choses inutiles. Ouais. Jésus dans Jean chapitre 15 dira « Je suis le cep et vous, vous êtes les vignerons. » Et le vigneron passe dans la vigne à chaque saison, enfin, à une saison donnée, et il émonde. Il coupe. Il coupe tous les rejets, tout ce qu'il faut, pour que véritablement, eh bien là, le cep puisse produire. Alors, c'est bien le principe de la sanctification pour faire place nette à ce que le Seigneur a de meilleur pour notre vie. Et nous allons en juger par la fin de vie de Job. Dans Jacques, avant de passer à Job et de terminer, au chapitre 5 et au verset 11, il est dit cette parole. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et quand on retourne finalement, eh bien, à la vie de Job, je le lis, et puis, verset 10, il est dit cette parole. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna la première le nom de Jimina, la seconde celui de Kessia, et la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est bien. Si le Seigneur vous donnait 10 000 chameaux, qu'est-ce que vous en feriez? Il faudrait du parking, hein. Il avait perdu ses fils, il les a retrouvés. Il nous est parlé de ses filles qui sont mortes dans la première partie de sa vie. Et là, il nous est donné les détails et les noms de ses filles. Elles ont des noms formidables. C'est des noms de parfum, imaginez-vous. Et il a vécu tant d'années après son expérience pour nous montrer que le livre de Job, si l'on regarde sur la, quand on fait un peu de bibliologie, que c'est certainement le plus ancien de tous les livres de la Bible. Parce que c'était déjà à l'époque même pré-patriarcale où les gens vivaient très très vieux. C'est un trésor, je m'arrête là. Parce que pour nous dire que le secret du bonheur, le secret de la vie, de la joie, après tant et tant d'épreuves, de pertes, de cris et de douleurs, Job a compris qu'il fallait lâcher prise. Qu'il fallait lâcher prise. Ce mot, vraiment, c'est important. Peut-être que demain, quand vous allez revenir chez vous et que vous allez commencer à prier, demandez-lui donc les quatre étapes que nous avons vues. Non pas parce que je vous le demande, vous faites comme vous voulez, mais de dire, Seigneur, aide-moi dans certains problèmes récurrents de ma vie à lâcher prise. Et c'est Dieu qui va vous aider à le faire. Vous n'y arriverez jamais tout seul. Hein? Et de tout remettre entre les mains de Dieu. Tout remettre entre les mains de Dieu. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. D'accord? C'est lui qui nous donne la vie à notre corps, à nos âmes et à notre esprit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mes frères et sœurs. C'est la liberté, la joie et le bonheur. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu, mais l'expérience dont nous avons parlé par rapport à Job peut transformer radicalement parce que dans l'épreuve, vous allez donner la preuve de votre foi et de votre confiance en Dieu et c'est lui qui vous délivrera. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Mes amis, si vous ramez, si vous êtes en train de vivre des choses difficiles, souvenez-vous que le Seigneur vous dit qu'il ne vous mettra pas dehors. Il vous accueillera et il vous donnera une vie nouvelle. C'est pas seulement la nouvelle naissance, mais c'est une vie de renouvellement dans une vie qui va rentrer de plus en plus dans la paix, dans la joie, dans la liberté et dans l'épanouissement. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs, ceux qui sont ici, mais ceux qui ne sont pas là, pour qu'ainsi, Seigneur, eh bien, tu leur donnes de comprendre, tu leur donnes de réaliser, Seigneur, que lorsque nos âmes sont encombrées, à un moment donné, il faut que, eh bien, tout se désordre. Héritage d'une vie passée, héritage d'une éducation peut-être religieuse, ou Seigneur d'une vie fouillie, eh bien tout cela doit disparaître pour faire place à une vie nouvelle. Mais pour passer de l'un à l'autre, l'œuvre c'est Dieu qui l'a fait, c'est le Saint-Esprit, cela vient de Dieu. Mais il faut notre consentement, il faut que nous acquiescions, il faut que nous le soupirions, il faut que nous le désirions Seigneur. Et que véritablement, Seigneur, nous te permettions véritablement de poser ta main divine, Seigneur, sur nos vies, pour être des nouvelles créatures. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles pour le peuple de Dieu. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.